parce que j'ai pas envie de finir à 40 ans ou 50 ans complètement exténuée. Enfin, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de voyager parce que j'adore faire ça. Et en fait, pour moi, il faut toujours être dans un bon équilibre, encore une fois, et s'écouter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. J'en profite aussi pour préciser que Sens Créatif a aussi son propre compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil @senscreatif-podcast. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, j'aimerais remercier Adobe qui sponsorise ce podcast depuis le début de la saison 3. Adobe s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde, parce que les expériences d'exception sont des sources d'inspiration et de changement qui font avancer nos vies. Et il n'y a pas d'expérience d'exception sans créativité. Et ça, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Car oui, la créativité est l'affaire de tous, et nous avons a priori tous quelque chose à raconter. C'est pourquoi Adobe a créé le Creative Cloud, une solution clé en main vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications de création pour donner vie à toutes vos idées. L'idée, c'est de stimuler cette créativité qui sommeille en chacun de nous. Vous savez, cette petite étincelle-là, eh bien le Creative Cloud, son job, c'est de permettre à tout un chacun, du professionnel le plus exigeant à l'étudiant débutant, de créer ce qui lui plaît où qu'il se trouve. Alors si j'étais vous, j'irais jeter un petit coup d'œil sur adobe.com, histoire de tester la version d'essai gratuite. Ce serait dommage de s'en priver, alors allez-y, vous m'en direz des nouvelles. Et sans aucune transition, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Delphine Dussoux, plus connue sous le pseudonyme d'Alcafine. Artiste multidisciplinaire partageant sa vie entre Paris et Montréal, Delphine s'est toujours donné les moyens pour y arriver. Elle est ultra prolifique et depuis plus de 10 ans, elle décline son univers riche et coloré sur divers supports. Qu'il s'agisse d'animation 2D ou 3D, d'illustration, de peinture, voire de collage sur les murs, Delphine passe de l'un à l'autre avec beaucoup d'aisance. Elle a aussi beaucoup travaillé dans le milieu de la musique, et ça, vous vous en doutez, ça m'a intéressé. Et pour vous donner quelques noms, Delphine a travaillé pour des artistes comme Pharrell Williams, Major Lazer, Jane, Mister Oiseau, Big Flo et Oli, le Cirque du Soleil, le Dour Festival en Belgique, j'en passe, et des meilleurs. Elle fait aussi partie du collectif de VJing Bibi Blaster, une discipline artistique que je ne connaissais pas vraiment avant de la rencontrer, et elle vous en parlera bien mieux que moi. Dans cet épisode, Delphine me raconte son parcours, comment elle a fait pour percer dans ce milieu ultra select qu'est le monde de la musique. Elle me raconte aussi comment elle choisit ses projets et négocie ses prix, de sa relation avec son agent, des différences culturelles entre Paris et Montréal, du burn-out et de l'équilibre à trouver entre projets professionnels et vie privée, de son rapport à la confiance et comment elle éduque ses clients, et enfin, de son intérêt pour le collage et le street art. Et on termine d'ailleurs avec une petite anecdote avec la chanteuse Angèle. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Delphine Dussoux. Bonne écoute. L'épisode spécial Belgique, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait enregistrer sur une terrasse, il y avait des avions qui passaient, on entendait des voitures et tout, et donc...
Trop bien.
Ça a pas dérangé plus que ça, donc
oui, de toute façon, tant que la voix elle ressort, ça va quoi.
Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Donc du coup, bah, si ça te va, on peut y aller.
Vas-y.
Allez, bah, Delphine, bienvenue sur Sens Créatif. Merci de me recevoir dans ce petit, comment on appelle ça?
Une petite cour intérieure.
Une petite cour intérieure, ouais. Très sympa.
Un petit havre de paix dans Paris.
Exactement, ouais, carrément, ouais. Ça fait trop du bien. Donc, bah, let's go.
Bah ouais, vas-y.
Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Alors, donc moi je m'appelle Delphine Dussoux, mon pseudo c'est Dalcafine et je suis directrice artistique, mais je suis aussi multidisciplinaire parce que je fais de l'illustration, je touche au VJing, j'ai fait des études en animation 2D. Puis en fait, en ce moment, je me diversifie de plus en plus en faisant de la peinture, des collages, de la sérigraphie, plein de choses, donc... Voilà, j'aime bien toucher à tout. Et qu'est-ce qui me motive à sortir du lit le matin? Bah, c'est souvent le travail quand c'est en semaine. Puis je suis quand même contente parce qu'aujourd'hui, à force de travailler depuis des années, bah, j'arrive à faire vraiment ce que j'aime. Donc ça motive le matin pour se lever.
Tu m'étonnes, c'est trop bien. Est-ce que tu pourrais du coup nous raconter un petit peu ton arrière-plan personnel, un petit peu ton parcours et... ce qui t'a amené à découvrir le monde de l'image? À quel moment est-ce que le déclic s'est opéré en toi?
Franchement, ça fait hyper longtemps, parce que mes deux parents m'ont sensibilisé hyper tôt à l'art.
Okay.
Donc ma mère, elle avait toujours voulu faire les beaux-arts quand elle était plus jeune, mais bon, c'était compliqué parce que sa famille voulait pas trop, etc. Bon, c'est encore l'ancienne génération et tout, donc finalement, elle en a pas fait son métier. Et mon père faisait de la photo, ma mère aussi, donc depuis petite, j'ai été sensibilisée comme ça. Ma mère nous a pas mal poussé à faire du dessin, Par exemple, quand on était petite, on écrivait des poèmes avec ma sœur. Bon, c'est des poèmes d'enfants de 3 ans.
Ouais.
Et ma mère nous faisait toujours illustrer les poèmes qu'on faisait.
Ah, trop bien.
Et ensuite, elle les gardait dans une pochette. Et donc, l'autre jour, on avait ressorti la pochette avec tous les poèmes et les dessins qui sont, c'est des dessins d'enfants, quoi. Donc, c'est vraiment pas grand chose. C'est un bonhomme avec des bâtons et tout ça, avec le soleil dans le coin de la page, tu sais, là, comme font tous les enfants. Et en fait, je pense que c'est venu de là. Et après, mon premier souvenir à la maternelle, c'était que on avait une énorme banderole à peindre avec tous les enfants. Et puis, tout le monde a mis sa main dans la peinture et l'a mis sur la banderole et ça faisait un dessin. Puis moi, j'étais la seule à avoir fait un bonhomme.
Ah, okay.
Du coup, la maîtresse m'avait offert la banderole en disant « Oh, mais c'est génial, t'as fait un dessin et tout. » Et donc, je me sens que c'était ma première fierté en tant que petite fille de, je sais pas, ça devait être en dernière section de maternelle, donc je devais avoir 5 ans. Et ça vient de là. Puis après, j'ai toujours continué à dessiner. Et je me souviens que dans mes classes, c'était toujours « Ah, Delphine, c'est la dessinatrice. Est-ce que tu peux me faire un chien? Est-ce que tu me fais un chat ?» Puis au fur et à mesure que j'ai grandi, après, je suis allée en art appliqué.
Ouais.
Donc, j'ai fait un bac art appliqué à Orléans. Et là, ça touche sur le design d'objets, le design d'espace, l'architecture, le stylisme et tout. Puis progressivement, ça m'a ouvert encore plus. Mais j'avais déjà un bon bagage, je pense, parce que mes parents m'emmenaient déjà voir plein d'expos.
Mmh.
Je suis allée voir l'expo Basquiat quand j'avais 7 ans. C'était la première qui était à Paris, je crois.
Wow.
On n'arrive pas à retrouver exactement l'endroit avec ma mère, je crois. On s'est dit, c'était où? Je me sens que ça m'avait bouleversée. Et c'était pas encore hyper connu en France. Puis ma mère était hyper fan de Frida Kahlo depuis qu'elle a 20 ans. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Je suis allée au musée Dali à Figueras quand j'étais petite. Pareil, ça m'avait...
Wow.
J'aime pas Dali, hein, mais ça m'avait bouleversée.
Ouais.
Je trouve ça trop bizarre et ça m'angoisse un peu ce qui dessine.
Le surréalisme.
Non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, ce que fait Dali, c'est clairement genre tous mes cauchemars, quoi.
Ah oui.
De quand j'étais petite.
Okay.
Des trucs. C'est pour ça que je supporte pas genre tout ce qui est le courant surréalisme parce que ça m'angoisse profondément. Mais en tout cas, ça vient de là et depuis très petite, quoi.
Ouais. Ok. Trop bien. Et du coup, l'animation, le VJing, tout ça, quand on observe ton travail, le milieu de la musique, il est partout. Ça déborde de partout. C'est coloré, il y a du mouvement non-stop. Bon, je pense, le milieu de la musique, c'est hyper proche avec... ça fait partie de toi, quoi. Je me demandais comment est-ce que tu as fait pour entrer dans ce milieu-là de la musique.
Alors, à la toute base, quand j'étais toute petite, j'étais passionnée par les vidéoclips.
Ouais.
Donc, je les regardais tout le temps, genre sur M6. Je me souviens de ceux de Michel Gondry, Daft Punk. Enfin, je trouvais ça incroyable, j'étais à fond. Et en fait, je m'étais toujours dit, moi, je vais bosser dans la musique plus tard, je vais faire des vidéoclips. Puis après, en grandissant, je me suis dit, en fait, ça paye pas, mais en fait, s'il n'y a pas d'école. Enfin, bref, c'est toujours le truc où tu commences. Donc, après, je me suis dit, tant pis, je vais faire complètement autre chose. Je vais partir en animation parce que j'avais toujours voulu faire de la BD. Et puis l'animation, ça rejoignait aussi ce que j'aimais bien, tous les dessins animés quand j'étais petite. Donc je suis vraiment partie dans des études d'animation classique, animation 2D, traditionnelle, After Effects. Ensuite, j'ai fait l'AMCA à Angoulême où là, j'ai développé à apprendre la 3D. Comme je savais faire en 2D, je me suis dit, je vais avoir une formation 3D. Comme ça, plus tard, c'est sûr, je vais trouver du travail. Et donc, j'ai vraiment commencé la formation classique où les profs, ils nous prédestinaient à être tous auteurs, réalisateurs de films, aller à la poudrière ensuite, aller dans la série animée. Enfin bref, en fait, ce que font tous mes amis aujourd'hui, quasi.
Ouais.
Et donc, je suis allée à Lille ensuite, après mes études. Et donc là, j'ai travaillé vraiment dans le truc classique, quoi. Publicité ou série d'animation, quoi. Donc, le schéma...
classique.
Prédestiné, voilà, ouais. que genre tout le monde fait. Et en fait, à Lille, je suis devenue amie avec une fille qui s'appelle Lou Blaster, parce qu'on a fait la même école, donc les SAT. Et elle était plus jeune que moi, et en fait, elle me suivait. Avec les années, j'étais un peu sa marraine, tu vois, en mode...
Ouais. D'accord, trop drôle.
Et en fait, on est devenus potes. Et elle faisait du VJing, et en fait, elle avait appris à en faire en 2011, je pense, 2010, en Norvège. Et en gros, elle m'a dit un jour, est-ce que tu veux rejoindre mon groupe de VJ Baby Blaster?
Ok.
J'ai fait, ouais, vas-y, trop bien, charmée. Et donc en fait, on a fait notre première soirée à Dunkerque fin novembre 2011. Dunkerque représente.
Ouais.
Et puis en fait, ça m'a trop plu. J'avais préparé des loops d'animation et tout. J'étais un peu stressée au début parce que je savais pas tout comment ça fonctionnait. Et en fait, de fil en aiguille, c'est parti de là. Après, quelques mois après, j'ai bougé à Montréal.
Ouais.
Et en fait, à Montréal, il n'y a pas du tout de séries animées, il n'y a pas du tout... la publicité en 2D, ça n'existe quasi pas, c'est très rare. Donc en fait, j'ai été contrainte de travailler dans l'industrie musicale, entre guillemets.
Ah ok, obligée quoi.
Pas vraiment obligée, mais j'avais pas vraiment le choix en tant qu'animatrice 2D, parce qu'il y a très peu de... Enfin, aujourd'hui, je pense que ça a changé, mais là, il faut revenir en 2013,
ouais.
En début 2013, et donc... Il y avait très peu de les clips animés, je connaissais peu de gens qui en faisaient, alors qu'à Paris Passion Pictures et tout ça, enfin il y a énormément de boîtes qui en font. Les séries animées, il y avait rien, donc en fait j'avais peu de possibilités et peu de solutions, et donc j'ai intégré une boîte qui s'appelle Moment Factory parce que j'avais une copine qui travaillait là et que je trouvais ça vraiment malade comme boîte, parce qu'elle travaillait pour des live shows, donc vraiment à l'époque ils avaient été connus parce qu'ils avaient fait le Super Bowl pour Madonna,
okay.
En 2012, et là à partir de là la boîte avait popé, hyper connue aux États-Unis, etc. Et donc moi je suis rentrée dans cette boîte là j'étais trop contente, sauf que donc moi c'était génial parce que du coup j'ai vraiment pu apprendre comment travailler la scène à base de templates, ok, qu'est-ce que ça va rendre sur les écrans LED, parce que moi j'étais vraiment habituée à travailler dans un 16:9 sur mon écran d'ordinateur et de ouais. Jamais voir mes choses créées en live. Et là c'est fou quoi, parce que la première fois que tu crées quelque chose et que tu le vois projeter quelque part en live avec des spectateurs, en fait ça te rend fou quoi, t'es là genre oh my
ouais.
God, c'est trop bien.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à avoir ce petit côté c'est trop chouette, parce que quand tu crée quelque chose et que tu le projettes, tu peux voir l'interaction directe avec le public.
Ouais.
Alors que quand tu travailles sur une publicité ou quand tu travailles pour un dessin animé, tu vois jamais les gens qui regardent. Donc tu sais pas, t'as pas les retours. Tu sais. Et puis moi en fait, c'est ça qui m'a passionnée, c'est de me dire c'est génial d'avoir un retour instantané,
ouais.
Et de voir que tu peux faire sourire les gens, que tu peux apporter du bonheur. Et ça a été addictif. Toi,
ouais.
Toi, tu parles du fait que t'aimes bien interviewer les gens.
Ouais.
Et il y a un côté humain, tu vois, parce que tu te rapproches des gens. T'es pas juste derrière ton ordinateur à créer. Là, t'as vraiment une connexion qui se fait. Et moi, c'est vraiment cette connexion avec l'humain qui m'a fait me dire « Ok, c'est ça que j'aime, en fait. »
Et des centaines d'humains, parce que pendant les shows,
ouais.
Y a plein de gens, quoi.
C'est ça. Et en fait, c'est de cette boîte-là, du coup, que j'ai commencé à apprendre toutes les techniques. Parce que avant, j'avais juste fait un peu de vidging et tout ça, mais là, j'ai vraiment appris à construire un show,
ouais.
Faire attention avec le climax, comment emmener le spectateur plus loin, comment créer un effet de surprise. C'est hyper important dans les shows. On va pas juste faire quelque chose de linéaire et de mou. L'idée, c'est de faire quelque chose qui va avoir un impact, qui va se transformer au fur et à mesure. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. En fait, finalement, c'est comme une bonne histoire.
Ouais.
C'est juste que c'est pour de la musique.
Et c'est une performance aussi. Il y a l'artiste... performe, mais à toi aussi dans les backstage qui bouge ton ordinateur et qui anime tout le truc.
Donc là en fait c'est parce qu'il y a deux choses. C'est soit comme à Moment Factory, on crée des visuels pour le show et ensuite souvent c'est pour des tournées, donc eux vont le mettre dans un ordinateur qui va partir en tournée et donc là il y aura pas de VJ qui va appuyer sur un bouton pour mixer en live.
Okay.
Donc soit on crée du contenu et on le donne à l'artiste comme j'avais fait avec Jane. On avait pris toutes les loops d'animation qu'on avait mergées sur ces loops musicales dans Ableton, donc qui est un logiciel de musique. Et quand Jane, en gros, elle appuyait sur ses touches de son contrôleur APC, contrôleur MIDI, quoi. Quand elle cliquait sur une touche, elle lançait non seulement une loop musicale, mais elle lançait aussi nos loops d'animation. Donc là, nous, on n'avait plus besoin d'être là. Par contre, quand je suis DJ live, donc là, je suis avec un DJ et puis on mixe entre guillemets ensemble. Je dis toujours que je mixe, mais parce que en fait, si tu me vois mixer, je mixe exactement comme un DJ à base de bouger et puis appuyer sur tous les boutons. Mais après, c'est juste que je mixe pas de la musique, je mixe des images, quoi.
Ouais. Et puis de fil en aiguille, tu t'es carrément fait ton petit trou dans le milieu de la musique, que ce soit pour les festivals, que ce soit pour faire les ex vidéos, que ce soit pour bosser sur des tournées. Là, t'es indépendante maintenant, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
Et du coup, t'as pu faire ton trou grâce à cette boîte, et ensuite t'es parti en solo et t'as pu continuer, quoi.
En fait, ce qui m'a vraiment fait un déclic, c'est en 2014, j'avais été contactée par Woodkid, qui réalisait le show de Pharrell Williams pour Coachella. Et en fait, je sais pas comment est-ce qu'il a trouvé mon travail, c'est encore un grand mystère, j'ai jamais osé lui poser la question parce que j'étais trop timide pour lui poser ça. Mais en fait, il m'a contactée en me disant « Hey, salut, je m'appelle Yoann Lemoine. On cherche un animateur pour le show de Coachella de Pharrell et là, c'est une catastrophe avec la boîte avec qui on travaille à LA. » On a vu ta bande démo, est-ce que tu peux bosser pour nous, c'est dans 5 jours.
Wow.
Et là, j'étais encore employée dans mon ancienne boîte et j'ai dit, Ok, est-ce que ça vous embête si je prends 5 jours off, là c'est pour faire à Williams ?» On me dit, ouais. « Mais non, t'inquiète, aucun problème, ils m'ont aménagé un bureau trop gentil et tout. » Enfin, j'étais vraiment soutenue par ma boîte aussi. C'était vraiment une boîte qui gardait en considération l'idée que chaque personne peut avoir un rêve et pousser. Bon, ça, c'était,
trop bien.
C'était avant, parce que maintenant ils sont 400, je pense que c'est un peu différent la vibe. Mais à l'époque, c'était plus en mode hippie, tu vois. Et du coup, donc j'ai travaillé 5 jours, j'ai pas beaucoup dormi et tout. Et en fait, ça a trop bien marché, ils m'ont rappelé, ils étaient hyper contents. Et ensuite, ils m'ont rappelé pour faire d'autres chansons de la tournée fin 2014-2015. Parce que ils ont eu la confiance, et les Américains marchent beaucoup avec la confiance.
Ouais.
Si ça fonctionne une fois, ils te font confiance sur du long terme. Ce qui est hyper agréable. Alors que j'avais 25 ans, je suis une fille, j'étais pas connue, rien, tu vois. Et potentiellement, je me serais dit qu'en France, on m'aurait pas fait confiance. Et en fait, aux États-Unis, ça pose pas de problème, quoi. Peu importe qui t'es, d'où est-ce que tu viens, s'ils aiment ton travail, ils vont te prendre. Et en fait, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, ok, si je suis capable de bosser sur des choses comme ça qui me font vraiment vibrer, parce que dans ma boîte, ils me faisaient aussi bosser sur beaucoup de choses photoréalistes et du coup, j'avais du mal à imposer le côté animation, parce qu'ils avaient tendance à dire que l'animation, c'était pour les enfants. Et c'était dur à vendre aux clients. Alors que moi, je suis persuadée aujourd'hui que l'animation, non, ça peut aussi être pour adultes, ça peut aussi être pour du vidging. Et déjà, à l'époque, je leur disais, c'était difficile. Donc, au bout d'un moment, j'ai quitté ma boîte pour partir ma carrière freelance. Et c'est parti de là, et voilà.
Et j'imagine que c'est ce que tu aimes dans la mentalité outre-Atlantique. Ce côté, on te fait peut-être plus confiance. C'est ce qui te plaît à Montréal, parce que bon, je sais que tu vis entre Montréal et Paris, c'est ce que tu mets toujours sur les réseaux, sur ton site. Qu'est-ce que tu retrouves, qu'est-ce qui te plaît dans les deux et pourquoi ces voyages?
C'est sûr que la France aujourd'hui, elle me manque, c'est pour ça que je reviens pas mal. Puis ça fait 7 ans que je suis partie à Montréal, donc ça commence à faire pas mal de temps. Moi, c'est sûr que quand je suis arrivée à Montréal, le gros choc, ça a été le respect entre les gens, quoi. Le respect dans la rue, le respect dans les boîtes, le fait que quand on soit des femmes, en tout cas dans mon ancienne boîte à Moment Factory, ils mettaient beaucoup en avant les femmes. Et j'ai jamais eu l'impression d'être sur le banc de la touche parce que j'étais une femme, parce que on va potentiellement un peu plus faire confiance à un homme, parce que tu sais, il y avait encore à un moment donné, genre, je sais pas, des vieux trucs, des hommes qui pensent que les femmes elles peuvent pas gérer des projets parce qu'elles sont hystériques ou que je sais pas si elles ont leurs règles elles vont péter un câble un jour. Enfin tu vois, c'est un peu cliché.
Ouais.
Mais c'est comme des choses que j'ai beaucoup entendues dans des boîtes de prod en France et j'ai aussi rare. Enfin en tout cas à l'époque quand j'étais étudiante, il y avait beaucoup de garçons en animation et pas beaucoup de filles. En tout cas les animateurs 2D étaient très souvent des hommes et les décoratrices ou les filles qui enfin ou les gens qui allaient faire de la colo allaient être plutôt des femmes. Et je trouvais que c'était quand même un milieu assez masculin. Et en fait, au Canada, j'ai jamais ressenti ça. En fait, c'est peu importe ton âge ou peu importe ton âge ou qui tu es. En fait, on va te faire confiance si on aime ce que tu fais. Et j'ai vraiment senti que aussi les Québécois sont hyper féministes. Donc même souvent, je suis autant payée qu'un homme, alors que parfois en France, j'ai l'impression que c'est encore un peu dur. Peut-être ça change, hein, parce que maintenant je suis un peu éloignée aussi de la France, donc peut-être que ça a changé et ça serait super. Mais j'ai vraiment vu qu'il y avait aussi une question de confiance et qu'au Canada, par exemple, on va rarement négocier ton salaire, alors qu'en France, on va toujours essayer de t'avoir au rabais.
Ouais.
Et en fait, moi, je trouve que pour une personne, c'est un manque de respect pour son travail. C'est comme si on en revient toujours à l'histoire du maçon, mais si tu veux une maison, tu vas pas payer ton maçon avec de la visibilité.
Ah, voilà. Ouais.
Exactement.
Old school.
Ou tu vas pas acheter ta baguette de pain gratuite. Enfin, tu vas pas le dire
pour
non,
de la visibilité.
Ne t'inquiétez pas, j'en parle à tout le monde de votre boulangerie. Ouais, ouais. Mais en fait, non, tu vois. Et moi, ça me rend folle, pardon, parce que en France, vraiment, il y a un truc comme ça où parfois je tombe sur des clients où ils te sous-payent, où c'est la visibilité, où non, mais t'inquiète et tout. Alors qu'en fait, moi, je me dis non. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, là, par exemple, à Montréal, je vais peindre un bus bientôt, genre dans 2 semaines. En fait, il y a une boîte qui me représente qui s'appelle Landmark. Et ils ont débloqué un budget pour que j'ai un assistant qui m'aide à peindre.
Ah ouais.
Et elle m'a dit, OK, est-ce que tu veux garder cet argent pour toi ou payer l'assistant? Moi, je fais, non, mais c'est sûr que je paye l'assistant, en fait. Enfin, pour moi, c'est hors de question de ne pas payer quelqu'un à partir du moment où il y a un travail.
Bah oui.
Et ça me choque. Et je comprends pas aujourd'hui qu'en France, il y ait des gens qui pensent que l'art, c'est encore un milieu où il faudrait que ça soit gratuit, quoi.
Ouais. Il y a toute cette question de la confiance, justement. Peut-être à développer sur le vieux continent.
Bah oui, parce que tu sais que si tu t'occupes bien de ton client ou de la personne avec qui tu travailles, si tu la payes bien, la personne, elle va être heureuse de rebosser avec toi. Et plus tard, ça va aussi te faire une bonne réputation. Alors que si de base les gens, enfin tu vois, c'est une question de confiance.
C'est un cercle vertueux.
Exactement, un cercle vertueux. Et moi je crois dur comme fer à ça.
Ah, totalement.
Je pense que les gens devraient réfléchir à ça plutôt que de dire non mais on s'arrange, t'inquiète, sous le manteau, parce que ça sert personne en fait.
Non, je suis d'accord. Et puis tu connais le podcast, c'est cet esprit que j'essaie de développer, cet esprit d'équipe, de confiance. D'ailleurs, ça nous permet d'enclencher sur un autre sujet. Tu l'as déjà un petit peu abordé, mais donc c'est cette question des projets, de la relation client, l'aspect un peu plus commercial. Et je me demandais quels étaient les critères sur lesquels tu te basais pour savoir si oui ou non tu prenais un projet.
Alors, maintenant que j'ai la chance de pouvoir dire non, parce que ça c'est venu avec les années. Hein. Enfin, au début, je suis sortie des études, j'avais pas un rond, je prenais tout ce qui venait.
Oui, normal.
Parce qu'il fallait que je me fasse de l'argent. Bah, maintenant que donc je peux dire non, c'est est-ce que le projet me plaît ? Si le projet me plaît plus, même un minimum, je prends plus. Par exemple, je peux pas travailler pour un artiste musical si j'aime pas sa musique parce que ça va pas du tout m'inspirer. Ouais. Je vais avoir la page blanche, ça c'est pas possible. Donc c'est si le projet me plaît, si l'artiste musical me plaît, si c'est dans la musique. Ensuite, ça va être combien je vais te payer, parce que dépendamment du projet. Si c'est un projet où tes visuels vont être vendus, c'est pas le même tarif. Si tes visuels vont être vus qu'en France, est-ce que ça va être dans le monde ? En fait, tout ça, ça va prendre en considération. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à Montréal. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en France, on se faisait beaucoup avoir avec ça. Parce que les gens, en fait, ils te payaient. Et alors que moi, à Montréal, j'ai appris, justement, grâce à la boîte qui me gère, Landmark, là. Ah ben non, tu sais que tes visuels, s'ils sont utilisés dans plus de tel pays, si c'est utilisé sur tel ou tel ou tel ou tel format, là,
ouais,
tu rajoutes de l'argent.
Oui.
Ah, vous voulez faire genre des tote bags avec ces visuels en plus ? Alors, ça sera tant d'argent. Ah, et en fait, le truc, c'est que, en fait, heureusement que donc cette boîte-là, elle me défend. Parce que c'est elle qui va me chercher des projets où moi, je peux leur en amener. Mais c'est elle qui va gérer tous mes contrats. Et du coup, maintenant, j'ai compris comment se baquer en tant qu'artiste.
Bien sûr.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, il n'y a jamais personne qui nous a appris ça. Et par exemple, je reçois encore des demandes pour créer des pochettes d'albums vinyles ou quoi, enfin, pour des artistes musicaux. Et puis c'est juste, on a juste ça comme budget. Mais oui, mais votre album, il va être vendu. Donc, mon visuel, il va sans doute être sur des flyers,
ouais,
sur des vinyles, sur des posters, enfin, sur votre com, Facebook, Instagram et tout. Donc en fait, tout ça, c'est un coût. Et souvent, quand moi, j'explique ça en France, les gens me disent, mais nous, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on paye 500 euros et puis c'est bon. Non, en fait, mec. En fait, ça s'appelle le copyright ou les droits d'auteur, quoi, tout simplement. Donc souvent, il faut plutôt que d'être payé en droits d'auteur, parce que c'est pas possible, hein, c'est clair. Hein, si tu fais un visuel pour un artiste ou quoi, il va pas te donner de l'argent tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est pas possible. Donc souvent, tu demandes un tarif qui inclut les droits d'auteur.
Ouais.
Pour que toi, tu t'y retrouves.
Ouais.
Et je me souviens qu'à Montréal, j'avais fait des visuels pour un projet. Et 2 ans après, ils voulaient réutiliser mes visuels. Ils sont revenus vers moi pour me dire « Hey, on aimerait réutiliser tes visuels pour cette année. Combien tu nous chargerais pour qu'on... » Enfin, en fait, juste pour les droits d'auteur. Mais j'ai jamais entendu ça en France.
Ouais.
Et en fait, c'est ce respect des règles et ce respect de l'artiste à Montréal qui m'a vachement éduqué et qui m'a appris. Et en fait, c'est là surtout où je me suis rendu compte qu'en France, on se faisait tout savoir, quoi.
Ouais.
C'est incroyable.
Ouais, on nous apprend pas à l'école, on n'a pas forcément des notions de ça. Enfin, du moins quand moi j'y étais, et je savais pas que t'étais représenté. Donc du coup, les choses s'éclairent un peu. Comme tu sais, je suis un agent et je pense que la négociation de prix, tout cet aspect business, ça crispe énormément d'artistes, d'indépendants, de jeunes qui sortent des études et même des gens qui sont dans le métier depuis super longtemps. Et à moins d'avoir un agent, c'est des commerciaux. Donc voilà. Il pianote avec ça à longueur de journée. C'est difficile on n'est pas éduqué à ça. Et je me souviens quand je t'ai rencontré, ça m'avait marqué en fait, ce côté peut-être plus anglophone. J'ai aussi une culture assez anglophone, donc ça me parle, ce côté un peu self-made, ce côté un peu décidé, ce côté on y va, on se donne les moyens d'y arriver. Et ça m'a frappé chez toi. Et il y avait vraiment ce côté un peu... businesswoman, tu vois. Nobody screws with Delphine, tu vois. Et voilà, c'était aussi pour ça que j'avais envie de discuter avec toi, parce que voilà, je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouve parfois un peu démunis face à... par exemple, je t'en avais parlé, je pense, la dernière fois, mais le milieu de la musique, c'est quelque chose qui m'attire, enfin, initialement, même si j'ai un peu changé. Mais si quelqu'un me fait de l'œil pour faire une affiche, je vais pas dire non. Mais il y a ce côté... le milieu de la musique, par exemple, ça paye pas énormément. Et t'as envie d'y rentrer, on te propose 500 balles, tu te dis ok, alors que en fait peut-être c'est pas beaucoup. Et voilà, on sait pas. Bon, voilà, j'ai fait une sorte de petit monologue là, mais je me demandais comment tu faisais toi. Bon, t'as répondu en partie avec ton agent, mais tout passe par ton agent ou tu te deals encore des choses de ton côté ou ça se passe comment
Alors non, donc il y a pas tout qui deal, enfin qui passe avec mon agent. C'est-à-dire que en gros, eux, ils vont me proposer des projets parce qu'ils gèrent plusieurs artistes et puis quand il y a un projet qui pourrait fitter avec mon univers, ils me le proposent. Moi, après, si j'ai un gros contrat qui arrive, je peux arriver à leur dire, ok, là, j'ai ce gros contrat, j'ai pas du tout envie de m'occuper de la paperasse, donc eux prennent un pourcentage là-dessus. Et eux gèrent toute la partie administrative. Et en fait, c'est vrai que tu disais que on n'est pas préparé à ça. Moi, je pense que, effectivement, en fait, c'est pas notre métier en tant qu'artiste. Parce que nous, on est créatifs.
Bien sûr.
Et je pense que être dans la paperasse, parler avec des clients, c'est épuisant. Ça épuise notre créativité. Et donc, moi, je suis pour que, à partir du moment où les gens, ils ont la chance de pouvoir trouver un agent, quelqu'un qui les représente, moi, je dis foncer parce que c'est hyper important. Déjà, ça nous permet de se baquer vis-à-vis du client. Le client va moins essayer de jouer avec notre culpabilité. Parce que c'est ça que j'ai remarqué en France, c'est que les clients français essaient de te culpabiliser en disant « Ouais, mais tu te rends compte quand même bien payé ». Enfin, ça m'est arrivé plein de fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle plus détaché. Mais parce qu'en fait, j'ai eu tout ça qui m'arrivait avant. Je pense que si on en parle à d'autres illustrateurs, tout le monde est passé par ces trucs-là.
Ouais.
Après, l'idée, quand tu disais qu'il fallait « Ouais, on te propose de faire une pochette d'album pour 500 euros », bah, c'est à toi de voir. En fait, moi, il faut toujours que je me dise « Ok, c'est à moi de voir si ça me plaît ». Est-ce que je me sens confortable avec cette situation-là? Est-ce que potentiellement ce projet peut m'emmener vers d'autres projets?
Ouais.
Par exemple, je sais pas, demain t'as, je sais pas, quelqu'un de hyper connu qui te contacte. Si t'es payé 500 euros, mais que t'es confortable de bosser pour ça, il faut aussi parfois se dire, ouais, mais attends, c'est quelqu'un d'hyper connu.
Voilà.
Donc j'aurai de la visibilité. Donc ok, pour cette fois-ci, je fais une exception et c'est correct et j'accepte ce tarif. Donc en fait, je pense que c'est essentiel de se poser toutes ces questions-là. Et de toujours se respecter en tant qu'artiste, parce que sinon, ça crée énormément de frustration. Et ça peut aller aussi trop de travail vers un burn-out.
Ouais.
Et le burn-out, en fait, vient aussi souvent d'une frustration liée à un projet.
Ouais.
Ça vient aussi de beaucoup de travail, mais t'es aussi plus tendu parce que tu te retrouves pas dans un projet. Et donc, pour moi, c'est un bon équilibre.
Ouais.
Mais par contre, je pense que quand même, aujourd'hui, à 30 ans, j'ai plus envie d'être payé des cacahuètes parce que je suis senior, en fait, maintenant, ouais, dans mon travail. Ça, ouais, fait 9 ans que je travaille, donc c'est aussi une question que les gens me respectent.
Bien sûr, ouais. J'avais entendu parler de cette règle des 3 F pour accepter un boulot, il en faut 2 sur les 3, c'est la fame, le fun ou le flouze. Et en gros, si t'en as 2 sur les 3, ça va, genre supposons que ça paye pas bien, mais que ça t'avance dans ta carrière au niveau de la fame et que c'est fun à faire, bon vas-y, tu peux y aller. Peut-être que c'est pas très fun, mais ça te paye bien et ça te fait avancer, enfin voilà. Et moi, je sais que c'est une règle que j'ai adoptée. Mais je pense, en effet, comme tu disais, c'est des exceptions. Mais c'est difficile, je trouve, de... Tu sais, je pense que quand tu sors de l'école, tout le monde a envie de se faire respecter. Et en fait, tu apprends par la force des choses à faire profil bas, à dire oui à tout, à faire preuve d'humilité. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu gagnes tes galons. Et donc voilà, il y a cet équilibre entre faire ses preuves et puis à un moment donné dire non mais c'est bon, j'ai donné. Moi je sais que parfois quand on me propose des choses que je me dis non mais les gars, je veux dire il y a 7 ans d'accord mais puis maintenant. Donc du coup j'essaie de le refiler à des personnes peut-être qui débutent ou qui ont besoin ou etc. Et... Oui voilà.
Alors oui, tu peux soit donner le contact à d'autres personnes qui débutent. Mais je trouve c'est important aussi d'éduquer son client. Moi maintenant j'essaie de leur expliquer aussi,
ouais,
que ça soit enfin en fait pour moi c'est comme un enfant, tu vois, tu éduques pour que la prochaine fois il réfléchisse à pas faire ça. Donc moi très simplement je dis à mon client bah voilà, en fait je suis vraiment désolée mais ce que vous demandez ça coûte tant et en fait c'est pas possible normalement d'être payé ce prix-là parce que les droits d'auteur, parce que tout ça. Et donc je leur explique très très posément et en fait souvent ils comprennent.
Oui.
Alors après parfois, enfin très souvent ils ont pas le budget plus, Mais du coup, ils me disent, bon, bah, ok, on comprend tout à fait, mais au moins, je me dis, plutôt que de leur dire non et qu'ils comprennent pas, il faut éduquer pour que la prochaine fois, ils réfléchissent à ça. Alors après, c'est sûr, hein, s'il y a des clients qui n'ont pas plus de budget, bon, bah, malheureusement, ça arrive. Hein. C'est vrai que je pense que les budgets en France et les budgets canadiens sont différents aussi. C'est une réalité. Je pense que réellement, en France, il y a beaucoup moins de cash qu'au Canada. Donc forcément, dans la culture, on va pousser moins les budgets, etc. Et encore, tu me diras, bah, ça dépend. Dans le monde de la pub, même en France, ils ont énormément d'argent, tu vois. Mais peut-être que dans le monde de la musique ou quoi, c'est beaucoup plus... Enfin, ils ont pas le même budget qu'aux États-Unis. Donc, éduquer le client, pour moi, c'est hyper important. Et voilà.
Donc, si on veut bosser dans la musique ou dans la culture, il faut choper des clients américains, canadiens, au niveau des budgets, quoi.
Ouais, alors après, pour un Français qui vit en France, travailler au Canada, c'est pas spécialement... Enfin, à distance, c'est pas spécialement le best parce que avec le dollar CAD qui est vachement bas.
Ah oui.
Nous, c'est cool si moi je travaille pour des Européens parce qu'ils me donnent des euros.
Ouais.
Ou des Américains, ils me donnent des dollars US. Donc ça, c'est bien. Moi, ça me fait plus d'argent. Mais je sais que si les Canadiens ont pas plus de budget, bah, la personne qui est en France, si elle demande, je sais pas, par exemple, 5000 euros, bah, en fait, si le Canadien veut dire, bah non, ça fait 7000 dollars, on peut pas, on a juste 5000 dollars, bah.
Ouais.
Tu vois, ça va. Donc, ça dépend, mais c'est vrai que je trouve que les Américains sont de façon générale hyper flexibles et font beaucoup confiance. Donc, ouais,
on en revient toujours à ça.
Ouais.
Toi, t'as le bon combo. En vivant entre Montréal et Paris, t'as les bons côtés de l'Europe et les bons côtés du Canada.
Ouais, ben en fait, c'est ça. Je suis hyper contente de ma vie nomade parce que finalement, j'ai pas le temps d'en avoir marre du Canada ou de la France parce que. Il y a plein de points positifs au Canada, plein de points positifs à la France, et des choses aussi que j'aime pas non plus, genre dans les deux pays. Mais du coup, le fait de vivre entre les deux, bah, ça me permet de diversifier mes projets. Là, par exemple, bah, cet hiver, j'étais en France et j'ai vraiment développé beaucoup mes contacts en France, plus que les années d'avant. Et là, ça m'a ouvert d'autres projets potentiels qui vont arriver en France peut-être cette année, si le Covid continue, enfin s'arrête, parce que ça serait cool. Mais sinon, ouais, donc ça m'a permis de développer les deux côtés. Et ça serait chouette après de développer un peu plus de choses avec les États-Unis, mais encore une fois, à voir.
Oui.
Parce que c'est vrai que souvent, c'est assez chouette, les projets là-bas.
Et qu'est-ce que tu aimes bien ici, à Paris, en France, en Europe, les bons côtés ?
La nourriture.
Tiens donc.
Moi, genre, tout le monde, enfin, voilà, ça me manque trop. Enfin, moi, j'adore manger et j'adore bien manger, enfin, des produits locaux. Et je trouve que c'est incroyable la chance qu'on a en Europe, enfin, tu vois, en Italie, en Espagne, au Portugal. C'est incroyable. En Grèce, l'huile d'olive, c'est sûr, elle a pas le même goût qu'au Canada.
C'est sûr.
Et il y a aussi toute la vieille pierre. Enfin, moi, j'ai fait appliquer, donc j'ai pas mal étudié l'architecture. Chaque fois que je suis à Paris, le nom des rues, je les trouve incroyables. À chaque fois que je suis à Paris, je vois des micro-détails que, en fait, les gens ne voient plus parce qu'ils ont tellement blasé de leur ville que, ouais, ah oui, ok, d'accord, tu vois. Enfin, alors que moi, je suis là, putain, mais regarde, il y a une petite statue de roi et de reine au-dessus de la porte, c'est trop chambé. Et je trouve ça incroyable. La diversité de paysages aussi.
Ouais.
Voilà, tu vois, j'étais à Bordeaux. Le week-end dernier, c'est trop beau, quoi. Enfin, le temps, c'est incroyable. Et après, c'est ça. C'est des choses différentes. Le Canada a des paysages incroyables aussi. Mais bon, après, il fait très froid la majorité de l'année. Et moi, ouais. Je sais que le froid, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc, c'est sûr que je pense que le côté méditerranéen,
ça te manque.
Ouais.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose auquel je suis attachée, tu vois. Enfin, je sens que ça fait partie de mes racines. La Méditerranée, et puis je crois que j'arriverai jamais vraiment à la quitter.
Et j'imagine qu'il y a un côté plus chill ici. Enfin, j'ai cette impression qu'aux États-Unis et au Canada, ça travaille beaucoup. Et tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Enfin, tu es multidisciplinaire. Tu bosses sur tellement de formats différents. Et c'est quelque chose qui fits bien dans cette culture. Après, j'imagine qu'il y a un équilibre à trouver, que tu retrouves peut-être aussi ici en France avec le côté un peu plus dolce vita, un peu plus méditerranéen. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cet équilibre-là ?
Alors oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, on travaille beaucoup, mais après, je pense qu'en France aussi, hein, vraiment, en fait, quand on est freelance...
bien sûr. Oui.
Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que quand on est employé, effectivement, on travaille peut-être moins en France qu'au Canada. Enfin, encore, je sais pas trop, parce que j'ai jamais trop été employé. Mais c'est vrai qu'en France, on a des lois qui protègent 35 heures, etc.
Ouais.
En fait, au Canada, c'est différent. Tu peux travailler 80 heures semaine, tu seras pas payé 80 heures. Ça va aller dans ta banque de vacances.
Ah.
Ouais, donc en fait moi dans mon ancienne boîte je bossais parfois 80 heures semaine, genre je me souviens finir genre le samedi soir à minuit et en fait j'avais jamais plus d'argent. Donc par contre quand t'es freelance je trouve ça ouais en fait je pense que quand t'es freelance comme tu peux accepter un travail un nombre de taf illimité, en fait toi-même tu peux en fait je pense que quand t'es freelance c'est toi qui décides si t'es un bosseur ou pas, enfin c'est toi si t'as envie d'être un travailleur ou pas. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'opportunités cool. Et du coup, il y a un moment donné où je me suis dit, ah, mais je peux pas refuser ça, mais ça non plus. Du coup, j'ai accumulé trop de travail. Et j'ai fait un mini burn-out l'année dernière, l'année d'avant aussi. Parce que, ouais. En fait, c'était là entre, OK, est-ce que je dis non, mais ça me fait trop chier de dire non à ce projet, ou est-ce que vas-y, je suis capable alors de tout prendre. Et là, je vais faire un bon gros mois où je bosse comme une folle, ou 2 mois, 3 mois. Mais le problème, c'est qu'en fait, sur du long terme, ton corps,
il
tient plus, quoi. Donc, faut faire attention. Mais après, tu vois, je regrette aucun des projets sur lesquels j'ai travaillé.
Ouais.
Parce que je me dis que ça m'a emmené tellement de choses aujourd'hui et puis j'avais tellement envie de pouvoir être libre de mes projets. En fait, je pense que quand j'étais petite, jamais j'aurais pu penser que j'aurais pu être appelée pour mon propre style. Et pour moi, aujourd'hui, je suis trop contente que ça soit le cas, tu vois. Mais tout ça, c'est des années de travail derrière.
Ouais.
Tu l'as pas en claquant des doigts.
Bon, c'est hyper gratifiant, mais il y a un prix à payer, quoi.
Ouais. Enfin, en tout cas, parce que moi, je suis un peu perfectionniste, donc ça, c'est mon problème.
Ouais.
C'est que je pense que, puis j'ai dans mon dessin, je mets pas 5 minutes à faire mon dessin.
Ouais.
Je mets énormément de temps parce que il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de détails. Parfois, j'essaie de faire des animaux un peu en mode gravure, donc c'est beaucoup de de travail. Et parfois, je me demande si je devrais pas simplifier mon style parce que ça me prend vachement de temps. Et je pense que c'est pour ça que si j'accepte plein de projets comme mon dessin me prend beaucoup de temps à réaliser, et je me sens vite surpassée.
Ouais.
Alors que si j'avais un style plus simple, ça se trouve, ça irait, quoi.
J'ai le même questionnement en ce moment. On a des styles différents, mais j'ai aussi ce côté perfectionniste. Et plus le temps avance, plus je veux simplifier tout ça, décomplexer tout ça. Je pense qu'au final, mon travail, c'est une quête de liberté, en fait, de moins se prendre la tête. Et parce que voilà, on veut prouver qu'on sait faire les choses, que ce qu'on fait, ça tabasse. Mais à quel prix? Enfin, peut-être tu me parlais de burn-out, t'en as fait 2, c'est pas rien quand même. Je me rends compte qu'on est plus fragile qu'on ne veuille parfois l'admettre. Et que parfois, on veut épingler des clients cool et on a des opportunités qui viennent vers nous. Mais moi, parfois, je me pose la question de ma santé mentale. Je me dis, mais voilà, à quel prix?
Ouais, moi c'était 2020, tu vois, je me suis fixé ça, je me suis dit ok, 2020 ça va être l'année où je vais faire un petit break, donc j'ai commencé mon année par prendre 10 jours de vacances et 10 jours de vacances à Lanzarote et puis après genre en Andalousie, puis après il y a eu le Covid.
Ah oui, merde.
Et en fait c'était le moment où j'aurais dû redémarrer mon travail.
Ah, ça t'a forcé.
Mais par contre, 2020 pour moi c'était l'année où je me suis dit ok, là il faut que ça change. Donc je vais réduire le fait de prendre plein de projets, enfin la quantité de projets, mais ça a vraiment été un élément déclencheur. C'est 2020 maintenant. Je sais que maintenant que j'en suis arrivée ici, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, je suis contente et ça me va. Je suis satisfaite. Donc maintenant je peux commencer à réduire parce que j'ai pas envie de finir à 40 ans ou 50 ans complètement exténuée. Enfin j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de voyager parce que j'adore faire ça et en fait. Pour moi, il faut toujours être dans un bon équilibre, encore une fois, et s'écouter. Et en fait, je pense que quand on est plus jeune, avant 30 ans, on a envie de tout donner.
On a envie de bouffer le monde.
Ouais, non, mais tout le monde, en fait.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est genre.
Okay, c'est pas un mal. Ouais.
Il faut que tu prouves. En fait, il faut que tu te prouves à toi de quoi tu es capable. Il faut que tu prouves aussi aux autres. Tu sors tes études, donc tu vois, il faut que tu prouves aussi que toutes les études que tu as fait, elles aient pas servi à rien.
Ouais.
Donc souvent, tu es là, genre, tu sors avec cette fougue et tout. Et moi, comme j'ai fait appliquer, pour ceux qui ont fait appliquer, ils savent que c'est des études hyper. Rigoureuse où on bosse comme des fous déjà. Moi, je faisais des nuits blanches à l'âge de 16 ans, 17 ans.
Ah ouais, ouais.
Tous les gens qui s'en ont impliqués, ils se reconnaîtront là-dedans. Parce qu'on avait des rendus et des trucs de fous. Du coup, j'étais vachement éduquée à ce travail intense dès mon plus jeune âge. Et j'ai toujours continué. Mais même les gens de mes promos à l'MK ou quoi, enfin, c'est des bosseurs, quoi. Genre, vraiment, je connais des gens, ils bossent comme des fous et c'est trop beau ce qu'ils font et tout. Mais il y a toujours énormément de travail derrière. Donc, c'est sûr que je pense que. La plupart des artistes à 30 ans commencent à faire bon, allez, maintenant je vais plutôt être chill. Et puis, et c'est bon, là j'ai déjà commencé une bonne carrière, je suis content.
Ouais.
Et maintenant je peux me reposer un peu. Et voilà, enfin, moi je pense que c'est ça que je vais faire. Maintenant, je vais continuer à accepter des projets parce que j'adore mon métier et tout. Par contre, je vais en accepter moins et je vais être de plus en plus picky sur mes choix. Dès que ça me plaît pas trop, non, je prends pas. Comme ça, tu sais, je préfère parfois me dire, je préfère avoir une journée de off dans ma semaine où je lis un bouquin, où je me repose, où je vois mes amis, plutôt que d'accepter un projet qui me plaît à 90%, tu vois, ou enfin, ouais, à 80%. Tu sais, maintenant, je mets en priorité un peu plus ma vie à côté.
Ouais. Bah, c'est un luxe que t'as pas volé en même temps. Je veux dire, ça fait 9 ans que tu bosses, puis avec les études que t'as fait, ça fait de vous des machines de guerre. La preuve en est ton site internet, toute la production et tout. Alors, il faut que je vous dise un truc, les auditeurs. Je viens de caler que sur ma tasse, il est écrit « I love my penis ». Voilà, je l'avais pas vu. Ça me fait beaucoup rire et ça me perturbe, mais c'est super.
C'est vrai que je t'ai donné ce message, j'aurais pu donner coffee break, mais non.
Ouais, voilà. Revenons-en à la discussion. Oui, voilà. Donc, tu l'as pas volé et tu voudrais un petit peu plus vivre pour toi. Et c'est drôle que tu parles de ce rapport à la trentaine. Parce que, bon, on a le même âge. Mm. Et je me retrouve, j'ai pas fait des études où on a fait de moi une machine de guerre. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Donc, ils nous invitaient plus à chercher notre voie et expérimenter. De temps en temps, j'aurais bien voulu être un petit peu plus carré. Mais là, voilà. C'est un processus que j'ai déjà enclenché, même avec ce podcast, il y a ce côté, bon, tu fais tes preuves, t'as épinglé les clients, tu fais ton chemin, tu coches les petites cases sur ton tableau de chasse, et puis à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant, quoi. Et toi, du coup, si on devait parler des 5-10 prochaines années, donc tu m'as dit, voilà, chiller un peu plus, voyager, mais c'est quoi un peu ce que tu aimerais accomplir ou vivre après avoir construit ces 9 premières années?
Bah, moi, je t'avoue que là, il y a un médium que je travaille d'un peu de plus en plus, c'est la peinture. Parce que, bah, pour moi, c'est aussi quitter un peu l'écran.
Ouais.
Parce que, voilà, le digital, ouais. Tu vois, moi, j'ai une tendinite à la main qui va jusque à mon épaule. Et en fait, ça, c'est parce que je bosse beaucoup, mais je bosse beaucoup sur la tablette. Donc là, je me suis acheté un iPad déjà pour changer ma façon de tenir mon poignet. Mais aussi le fait qu'on soit tout le temps courbé devant notre ordinateur, tu vois. Enfin, on a tous mal au dos.
Oui, oui.
Parce que c'est hyper dur, en fait, de se tenir vraiment droit devant son ordinateur. Au bout d'un moment, tout le monde s'affaisse, enfin, que tu le veuilles ou non. Donc, ça participe aussi à l'entretien de ton corps. C'est sûr que quand moi, je peins, j'ai pas la même gestuelle ou la même dynamique que sur mon ordinateur. Ça fatigue moins, t'arrives mieux à dormir aussi. Donc là, de plus en plus, grâce justement à Landmark, donc la boîte qui me représente à Montréal, eux, ils m'emmènent plein de projets en peinture. Peindre, ah ouais. Ouais, par exemple, peindre une murale, là, peindre le bus dans 2 semaines. Donc c'est pas mal de choses, en fait, qui me sortent de mon ordinateur. Et je pense que j'adore toujours faire du vidging et tout. Donc c'est sûr que si je pouvais continuer à en faire pour des artistes que j'aime, bah, je serais trop, trop contente. Mais j'aimerais vraiment, dans les prochaines années, continuer à faire 50% vidging pour des artistes que j'aime et me diriger de plus en plus vers la peinture. Mais toujours aussi l'illustration de base, parce que j'adore, mais c'est vrai que la peinture, pour moi, c'est un médium qui me... j'ai envie d'explorer un peu plus.
Ouais, tu mets les mains dans le cambouis, quoi.
Ouais, et puis c'est moins stressant, tu vois. Il y a un côté, comme quand tu dessines sur une feuille de papier, il y a un côté thérapeutique un peu.
Oui.
Et moi, tu sais, je mets de la musique, je peins, je suis trop bien, quoi. Enfin,
ouais.
C'est un peu retour à la base, ouais. Parce que bah, quand on est petit, on a tous... peint ou fait de l'aquarelle ou quoi, tu vois, avec nos parents. Et
tu retrouves une sorte d'état d'insouciance, d'innocence. C'est comme la méditation, en fait.
Ouais.
Tu fais un avec l'univers et avec toi-même.
Si tu veux.
Et tu fais du collage aussi.
Ouais.
Peinture, collage.
Ouais, bah, le collage, c'est une autre façon encore de... un autre moyen d'expression qui, en fait, finalement, se rapproche un peu des murales, quoi, ou du graphe, parce que c'est dans la rue. Et c'est ça qui est cool, en fait, avec l'art de rue. C'est que c'est visible par tout le monde et pas seulement dans une galerie où la plupart des gens ne vont pas, en fait, parce que faut avoir une éducation quand même pour aller dans une galerie. Il y a pas tout le monde qui va oser rentrer dans une galerie. Il y a des gens, si leurs parents les ont jamais emmenés, ils vont dire non, bah moi ça me touche pas. Donc ce qui est bien avec la rue, c'est que finalement tu peux mettre des petits morceaux de toi cachés. Puis
ouais.
Moi là, c'est marrant parce que j'en ai fait à Paris il y a 2 semaines. Et il y a des gens qui m'ont retrouvé, enfin qui ont reconnu, en fait, mes visuels, qui m'ont tagué dans Instagram, alors que j'avais, en fait, je signe pas, ou alors je mets des LKN pour pas qu'on me retrouve, parce que j'ai quand même peur parce que c'est illégal, tu vois.
Oui,
on a pas envie de se faire emmerder par la police ou d'avoir des amendes. Ouais. Même si, bon, il y a plein de gens qui font pire, tu vois.
Bien sûr.
Mais on sait jamais. Et donc, c'est toujours agréable quand les gens, ils reconnaissent ton visuel et qu'ils te mentionnent. T'es là genre, oh, trop bien.
Tu fais ça la nuit?
Ouais.
Ouais.
Ah bah, obligé. Hein.
Ouais.
Obligé. Bah, ouais, souvent, c'est tu pars à 11h, minuit, puis t'arpentes les rues et puis tu finis à 2h30 du matin. Et voilà. Et en fait, il y a un petit côté cool parce que ça, c'est un côté un peu vandale.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, t'as tout l'adrénaline en même temps. C'est un truc.
Parce qu'on va se faire choper.
Ouais, c'est un truc, tu sais, que tu fais la nuit. Donc, souvent, la nuit, t'as plus de. Je sais pas si tu vois.
D'adrénaline. Ouais,
enfin,
bien sûr.
Tu vois, t'es un peu plus foufou qu'en ouais. journée ou parfois avec le soleil, t'es un peu plus. Ouais, et puis enfin moi je le fais toujours avec un de mes amis qui s'appelle Dugudus,
oui.
qui est un illustrateur incroyable. Mmh. Je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. Puis là l'autre jour, bah justement je l'ai fait avec mon copain pour lui montrer. Et donc c'était lui il a adoré. Donc c'est aussi le fait de partir à plusieurs. On
ouais.
en avait fait aussi avec Jane.
Ouais. Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, elle avait adoré.
Trop fort.
On en avait fait en décembre justement avec mon ami Dugudus et elle. Et en fait à chaque fois que on montre ça à des gens. Qu'on va aller les initier, ils sont tout fous et en fait ils prennent aussi ce goût au vandalisme.
Ouais, bien sûr.
Et donc c'est assez drôle. C'est après faut pas être trop. Hein. 3 c'est le maximum je pense, mais il y a un côté travail d'équipe où toi t'aides à faire le collage de l'autre et il y a une autre personne qui
fait le guet.
S'il y a pas. Ouais, ouais. Mais on a déjà croisé plein de voitures de police et à chaque fois on s'est dit merde ils nous ont pas vus. Enfin on a eu trop de chance parce que vraiment parfois tu te dis bon bah si tu tombes sur des policiers qui veulent juste te faire chier bah en fait tu es en garde à vue et.
Ça t'est arrivé?
Moi non, mais je connais des gens à qui ça arrive. Donc faut faire attention. Oui, si tu fais attention, normalement, il n'y a pas de problème.
C'est un peu jouer à se faire peur, quoi.
Ouais, je sais pas, il y a un côté un peu adolescent, c'est marrant.
Ouais, ouais. Prendre des risques. Puis tu poses ton empreinte dans la ville.
Ouais, puis aussi tu la poses dans des endroits. Moi, je prépare tous mes visuels à l'avance, je les découpe. Et quand tu passes devant un endroit, tu dis « Ah, mais ce visuel-là, il irait trop bien sur cet endroit.
Ouais. »
Parce que l'architecture est comme si... Après, tu colles pas n'importe où. Hein. Je veux dire, tu vas pas aller coller sur un bâtiment haussmannien, un truc magnifique.
Oui.
Enfin, je veux dire, tu vas coller dans des là où les murs sont un peu défoncés, là ouais. où il y a déjà des collages, là où il y a un gros tag devant. Tu vas pas non plus être irrespectueux, quoi. Et ouais.
Et ça t'oblige à regarder. Tu es constamment en train d'observer ton environnement, j'imagine, pour repérer les petits spots où tu vas revenir la nuit.
Ouais, parce que c'est ça, en fait, après, t'as une déformation professionnelle, tu vois, où en fait, tu deviens obsédé. Oh, là, j'aimerais trop coller là-dessus ou là et tout. Et en fait, à chaque endroit de rue, tu regardes partout et après, enfin, moi, parfois, bah, quand je colle, je suis là, ok, next collage, ça sera là et tout. Et j'aimerais bien passer au niveau supérieur qui est le, tu sais, comme Space Invader ou ouais. John Hammond, là.
Il est génial, lui. Ah ouais, j'adore. C'est trop fort.
Et ben
c'est
lui,
trop drôle.
Il colle toujours dans des endroits improbables, ouais. hyper haut, parce ouais. que en fait, plus tu colles haut, plus t'es sûr que ton collage y va rester.
Ouais.
Et ça, c'est le next level. Et moi, je veux trop accéder, mais il faut une échelle de foot, balader avec l'échelle. Je pense qu'ils ont un camion, les mecs. Et après, si tu te fais repérer aussi, enfin, il faut aller hyper vite, quoi.
Oui.
Parce que bon, une échelle, c'est pas la même chose, tu vois.
Ouais.
Et donc
vite,
là,
vite, il faut descendre.
Hein?
Vite, il faut descendre. Ouais. Quand t'es...
Donc encore plus de risques, mais par contre, là, t'es sûr que ton collage il est encore plus visible. Et moi, je trouve ça trop bien.
Et t'as une anecdote de l'endroit le plus fou où tu as collé pour le moment?
Bah, pas vraiment, parce que j'en ai pas non plus fait énormément, mais... Ah si, j'en avais fait... Alors, c'est... Bon, j'ai un peu honte de le dire, parce qu'il a été, retiré au bout de 3 jours, donc à mon avis, les propriétaires on en a eu marre, mais c'était juste devant le métro de Belleville.
Mm-hmm.
Il y a une sorte de supermarché, je sais plus comment il s'appelle,
oui.
Et en fait, j'avais collé un tigre. Et avec mon ami Dugudus, on s'était dit bon, moi je veux trop coller là mon tigre, je sais pas pourquoi je le vois là et puis c'est tout. Donc j'ai fait un blocage sur ce mur-là. Et en fait, il y avait plein de monde. C'était juste devant l'énorme boulevard genre de Belleville et tout. Il y avait trop de monde dans la rue, juste devant la bouche de métro, quoi. Et là, j'étais là bon, vas-y, on le fait genre en 2-2 et tout. Et en fait, c'était trop le stress. Et on a réussi à le faire en je sais pas 15 secondes maximum parce qu'il fallait aller trop vite.
Trop fort.
Et en fait, c'est marrant parce que tu dis non mais là, en fait, il y a une chance sur vraiment rien qu'il y a un flic qui passe à ce moment-là, ouais. parce que c'est un boulevard où il y a des gens, des flics et tout. Et voilà, donc ça c'est cool, tu vois, quand tu fais dans des endroits passants.
Ouais, c'était du jour ça.
C'était le soir à 22h.
Ah oui, ok.
Donc il y avait quand même beaucoup de gens, c'était un jeudi soir, donc tu sais, les gens ils sortent quand même, ils vont au bar, ils rentrent du métro.
Ouais.
Donc c'est un peu couillu de le faire juste devant une bouche de métro et sur un boulevard, tu vois. Comme un rond-point, quoi, enfin, une sorte d'axe. C'était assez drôle.
C'est une sorte de récréation, on dirait. Avec tout le travail très sérieux et tout, pour le digital et tout. Et puis ça, c'est. Allez hop, on va s'amuser, quoi.
Non, mais c'est cool aussi de voir ces visuels en grand. Tu sais, ça change. C'est comme quand tu fais une murale. En fait, nous, encore une fois, on est habitué à dessiner sur un tout petit truc. Un iPad, un écran d'ordinateur, c'est pas très gros. Et le fait de le voir en vrai, franchement, ça fait quelque chose.
Ouais.
Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour le travail de Vijing, ça permet aussi de connecter les gens avec ton art directement.
Mmh.
Et le fait que moi, les gens, ils prennent des photos qu'ils m'envoient sur Instagram ou qu'ils reconnaissent ça, tu dis « Ah, trop bien, je connecte avec des gens, tu vois. » Et ça, c'est autre chose que de travailler dans la pub ou travailler dans le... dans la série animée ou autre chose, enfin, où tu vois pas le, enfin, de toute façon, la pub, en général, ça fait pas frissonner les gens, tu vois, ça reste de la pub, quoi.
Mais... c'est éphémère, quoi.
Ouais.
Pour terminer cette interview, il y a une histoire que j'aimerais trop que tu me racontes. C'est comment tu as fait pour refiler un vêtement avec un de tes dessins dessus à Angèle?
Alors, c'est, en fait, je connais Ariel Tintard, qui est un ami à moi, qui était le pianiste de Angèle de 2018 à 2019. Et en fait, il est venu dormir chez moi à Montréal parce qu'Angèle est passée aux Francofolies. Et en fait, on se badait dans la rue, puis on a retrouvé Angèle avec lui.
Ah ok, tu l'as rencontré en vrai.
Ouais, okay. On a bu un verre après ensemble avec sa manager, et puis Ariel, et puis Kikwe, qui était le batteur à ce moment-là. Et en fait, comme j'avais fait la veste avec le cartel, j'avais demandé au gars du cartel, j'ai dit est-ce que parce que en fait le soir Ariel m'avait invité au spectacle et il m'avait dit si jamais tu veux offrir ta veste à Angèle moi je peux lui emmener quoi.
OK.
Du coup, j'étais allée récupérer la veste et en fait, c'était un peu la surprise quand elle a porté sur scène.
Ah ouais.
Parce que je m'y attendais pas du tout parce que en fait Ariel lui a offert avant le show et finalement elle est arrivée sur scène avec la veste et j'étais là OK.
Oh
trop bien, surprise, mais tu sais, enfin moi je l'ai pas offert pour qu'elle la porte sur scène, hein, je l'ai juste offert pour elle, pour qu'elle la porte dans son quotidien, et donc c'était une bonne surprise quand elle l'a portée sur scène, j'étais hyper contente quoi.
Ah ouais, ah, c'est drôle, c'est tout simple en fait.
C'est tout
comme
simple,
histoire.
Ouais, c'est juste...
Je me souviens quand j'ai vu la photo sur Instagram, genre, alors comment ça s'est passé ça c'est... Et au final on en revient toujours à cette histoire de relation humaine.
Ouais. Oui, puis après tu peux offrir un truc à un artiste, et si l'artiste aime pas, bon il le porte pas, tu vois, donc... Là, ça faisait plaisir, toi. Je me suis dit, ça se trouve, elle a kiffé et puis elle a voulu la mettre, donc c'est bien.
Bah ouais, franchement, c'est hyper stylé, quoi. Super. Bah écoute, merci Delphine pour cette discussion, c'était méga intéressant.
Bah merci à toi.
Et puis, au plaisir.
Bah ouais, carrément.
C'était ma discussion avec Delphine Dussou. Merci à elle pour son temps, j'ai passé un excellent moment à discuter ensemble dans cette petite cour intérieure. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le dire à Delphine en la suivant sur Instagram ou en visitant son site internet. Vous verrez son site fourmi de clips vidéo et d'images foisonnantes, alors si vous êtes plutôt branché musique et animation, pour sûr, ça devrait vous plaire. Pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreative.fr, le tout nouveau site internet consacré au podcast. Vous retrouverez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode.
Salut, je m'appelle Margot Lecointre, je suis illustratrice et graphiste en freelance et je fais partie du Patate Club, c'est-à-dire le Patreon. J'écoute tous les épisodes de Sens Créative qui sortent et j'y apprends énormément de choses très intéressantes sur les métiers créatifs. J'ai l'impression d'être encouragée et de découvrir de mieux en mieux ce métier qui me passionne. J'ai eu envie de soutenir financièrement Jérémy sur Patreon pour qu'il puisse continuer encore et encore à créer de nouveaux épisodes. Le Patate Club, c'est un groupe de créatifs plein d'entrain, d'idées et de bonne humeur et je suis heureuse d'en faire partie. Parce que c'est génial de discuter avec cette communauté de nos questionnements professionnels au quotidien, de partager des défis, nos trouvailles et nos projets. Les participations débutent à 2€ par épisode et cela nous donne accès à des rencontres avec les autres membres du Patate Club, des formations en groupe autour de sujets comme le lettrage, sans oublier le tout nouveau Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar. C'est un peu comme si vous entriez dans les coulisses de Sens Créatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Patreon. .com/senscreativepodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante et pleine de diversité où l'on s'encourage, on s'inspire et on échange les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. C'est un peu comme une ruche virtuelle avec des alvéoles pleines de conseils, de réflexions ou de blagues pour les illustrateurs, graphistes et les créateurs d'images de tout poil. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. À bientôt!
Et là, normalement, c'est le moment où on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous faire une petite annonce. J'aimerais vous parler du festival Nîmes Illustre. Si vous êtes un fidèle auditeur du podcast Nîmes Illustre, vous en avez déjà entendu parler. En effet, l'été dernier, j'en ai parlé avec Marie-Laure Cruchy, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme Cruchiforme, dans l'épisode 34. Rappelez-vous.
Alors, le festival Nîmes Illustre donc, est un festival d'illustration qui se déroule, je vais parler au présent, hein, qui doit se dérouler et qui se déroule à Nîmes. Et c'est assez... alors c'est fou, hein, c'est une aventure assez incroyable de monter un festival. C'est une petite... c'est vraiment monter, ça peut être un travail bénévole, encore une fois, de plus, où tu comptes pas ton temps et tu donnes... généreusement, c'est quand même un projet de conviction où tu essayes de mettre en place... on est porté par des utopies quelque part quand on monte un festival. On essaye de... On a envie d'œuvrer, comme toi tu le dis très bien, pour la communauté en fait des illustrateurs. En tout cas, moi je sais que ça fait partie des moteurs, même si je le... Voilà, ça s'impose là comme ça.
Normalement, ce festival devait avoir lieu en 2020. Mais comme vous n'habitez pas sous un rocher, vous savez pertinemment que comme nombre d'initiatives culturelles ou artistiques, crise du Covid oblige, le festival n'a pas pu avoir lieu. Mais cette année, les amis, cette année, le festival aura bien lieu. Et si vous aimez l'illustration, je ne peux que vous encourager d'y participer, car la programmation est riche et ambitieuse. Au programme, des expositions, des conférences, des visites dans la ville, des temps de rencontres professionnelles. Vous aurez aussi l'occasion de présenter votre book à des agents. Afin de bénéficier d'un portfolio review, il y aura également des ateliers de sérigraphie, de risographie, de réalité augmentée, un workshop pour créer son propre fanzine, une librairie pop-up, j'en passe, et des meilleurs. Sans oublier le fait que Sens Créatif aura le plaisir d'y organiser son deuxième enregistrement live et en public, un peu comme celui que j'avais organisé à la Slow Gallery fin 2019 et que vous pouvez découvrir en écoutant l'épisode 20. Et ça, les cocos et les cocottes, ça me réjouit tout particulièrement. En effet, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde en compagnie de Marie-Laure Cruchy, Mickaël Prigent du Parisienneur et Marion de Meulenard, que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter sur ce podcast, afin de discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir... fédérer la communauté artistique. Et en cette période de crise du Covid, le sujet est encore plus d'actualité. Comment faire pour fédérer les illustrateurs et les illustratrices autour de projets collectifs et collaboratifs? That's the question. Marie-Laure, Marion, Mickaël et moi-même apporterons chacun notre regard et notre expérience sur la question, et ça va être passionnant. Alors si vous aussi vous avez envie de rencontrer d'autres personnes de la profession ou des membres de la communauté Sens Créatif, le festival Nîmes s'illustre. C'est le festival à ne pas louper cet été. Les expositions seront visibles durant tout le mois de juillet, mais les festivités auront surtout lieu le week-end du 2, 3 et 4 juillet. Alors prenez vos tickets de train et venez faire la bringue avec nous, ça va être bien bien bien. Toutes les infos, la programmation et tout le tintouin sont à retrouver sur le site www.nimesillustre.fr. Voilà voilà. Comme d'habitude, je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Faudra un jour que je lui offre une médaille à ce cher Adrien, à force de le remercier à la fin de chaque épisode. Mais pour de vrai, allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou écoutez ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.